Mémodio, une mémoire sonore.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous remercions chaleureusement la Fondation Copernic, la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France, avec le soutien des amis du monde diplomatique, ça a été dit, d'accueillir cette réunion publique de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. De fait, hormis les conférences de presse pour présenter nos rapports, des communiqués de presse, deux réunions publiques ont eu lieu, l'une pour le premier rapport en plein mouvement des Gilets jaunes en avril 2019 et l'autre consacrée à la 69 présentée à Castres en 2024. Donc de fait, la parole publique des observateurs est relativement rare, hormis deux réunions publiques que nous avions fait, une pour le premier rapport en 2019 en plein mouvement des Gilets jaunes en avril et l'autre consacrée à la 69 présentée à Castres en 2024. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire toulousain des pratiques policières ? C'est un collectif autonome des organisations qui ont contribué à sa création, la Fondation Copernic, la Ligue des droits de l'homme et le SAF. Quelques dates. Donc, vous avez affiché là, tout le monde a en tête Sivens à l'automne 2014, donc suite à cette tragédie ayant amené la mort de Rémi Fraisse. Gestion catastrophique des opérations de maintien de l'ordre, des informations organisées, usage de 703 grenades de toutes sortes, tir de 74 balles en caoutchouc, voilà, plusieurs manifestations de rue ont eu lieu. Printemps 2016, mobilisation sociale contre la loi travail, dite loi El Khomri, tout le monde s'en souvient, ampleur des dispositifs, militarisation des espaces publics, et nous en passons. Décembre 2007, manifestation Val Tolosa contre le méga centre commercial de Plaisance-du-Touche face à une manif bon enfant, déploiement dispositif, maintien de l'ordre absolument disproportionné. Canon à eau, grille anti-émeute, CRS, bac motorisé. Ces constats ont été le point de bascule qui a amené des militants de la Fondation Copernic et de la Ligue des droits de l'homme à la mise en œuvre d'un projet d'un observatoire. Et le 4 mars 2017, c'est la création officielle par un communiqué de presse de l'Observatoire toulousain des pratiques policières par la Fondation Copernic et la Ligue des droits de l'homme. Le SAF rejoint cet observatoire quelques mois après. Le SAF, le syndicat des avocats de France, pardon. Alors, quelques points qui définissent le collectif, quelques fondements. L'Observatoire, c'est un collectif citoyen, il n'a pas de personnalité morale propre. Il fonctionne sous l'égide des associations précitées qui en assurent le soutien logistique, financier et juridique. Il est totalement autonome en termes de fonctionnement. Le cadre est bien défini, une démarche rigoureuse, engagée et scientifique grâce à l'appui de l'enseignant-chercheur Daniel Weserland du laboratoire du CNRS de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il en développera la méthodologie. Les observations se mènent in situ lors des manifestations, évidemment. Les observateurs prennent photos, vidéos, notes. Le dossier OPP, c'est 850 gigaoctets, si ça dit quelque chose, de données, donc 95% de photos et vidéos. Nous avons un statut international d'observateur indépendant. Les observateurs respectent la Convention de Venise. Jean-François, à ma gauche, développera, en parlera un peu. Engagement à la neutralité comportementale, protocole d'observation en 6 points, vous nous voyez dans les manifestations, nous ne nous mêlons pas au cortège des manifestants. On ne scande pas de slogans, on a cette chasuble et on est identifié très facilement. Nous n'invectivons ni jamais les policiers ni les gendarmes. C'est notre crédibilité qui est en jeu. Les notes, photos, vidéos prises servent à rédiger les comptes rendus d'observation. Alors, c'est pour ça qu'on les fait d'une façon rigoureuse, localisation, datation horaire, enchaînement des faits qui doivent être le plus précis possible. De fait, ces comptes rendus qui restent internes à l'observatoire, à notre collectif, sont appris, repris pour la rédaction d'un rapport, de rapports circonstanciés. Sur le petit flyer, vous avez tous les rapports que nous avons déjà réalisés. Et enfin, les observateurs se signalent systématiquement leur présence par courriel, par une déclaration à la préfecture et à la direction départementale de la sécurité publique dans les 48 heures précédant la manifestation. Nous sommes, à ma connaissance, le seul observatoire qui nous déclarons à la direction départementale de la sécurité publique et à la préfecture. C'est une particularité de l'OPP toulousain. Et enfin, bon, le questionnement de la politique du maintien de l'ordre. Il s'agit pour nous de vérifier 3 critères principaux dans le maintien de l'ordre. La nécessité, la proportionnalité et la redevabilité. C'est-à-dire que les actions menées par les forces de l'ordre puissent être justifiées en regard des textes légaux et des droits fondamentaux. Ces points sont très explicités dans le 4e rapport. Vous les trouverez dans le 4e rapport. Donc nos outils, les quatre rapports en propre que nous avons faits, un avec l'OPP du Tarn suite à la 69 et deux avec les interobservatoires. Effectivement, il y a un réseau d'observatoires des libertés publiques et ou des pratiques policières en France suite à la création de l'OPP toulousain qui a vu le jour. Nous participons régulièrement des échanges et un interobservatoire est né à Sainte-Soline. Formation en interne, ça se fait pas comme ça, au doigt mouillé, on n'observe pas sans rien. Beaucoup sur le terrain, nous avons des assemblées générales régulières en externe sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'objectif étant d'intégrer les textes nationaux et internationaux. Voilà, en gros, je vais laisser ma parole, on m'avait dit 3 minutes, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc, à Daniel.
Bien, merci, bonjour. Donc moi, je suis sociologue et associé, membre d'un laboratoire CNRS à Jean Jaurès. C'est un vieux débat en sociologie. Le fait que des scientifiques travaillent avec les militants. Alors, pour les vieux et vieilles d'entre nous, il y a eu un monsieur qui s'appelait Alain Touraine, qui, à partir de 1968, a travaillé avec l'ensemble des mouvements sociaux. Pour les plus jeunes, il y a eu Michael Pollack sur le sida. C'est un courant qui existe en sociologie, qui est bien vu quand les luttes sociales sont efficaces, courantes, qui est très mal vu autrement. Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas être neutre et scientifique. Mais c'est une vieille tradition sociologique. Alors, quand on a créé l'OPP, très vite s'est posé la question de comment faire des observations. Alors, ce que moi j'en retire avec de la distance, parce que maintenant ça fait 8 ans qu'on a créé ça, c'est que c'est une double acculturation ou un double métissage. En gros, pour les chercheurs, il faut s'habituer au rythme des militants. Imaginez que nous, pour faire un rapport scientifique, on prend des fois 2-3 ans. On le fait relire 10 dizaines de fois, on le fait valider par nos pairs. Là, il faut aller vite. Quand on décide de faire un communiqué de presse, quand on décide de faire un rapport, on va toujours très vite. Et en plus, il faut que nous, on arrête avec la culture académique du point-virgule. Tout le monde n'utilise pas le point-virgule. Autrement dit, il faut que les chercheurs, les scientifiques acceptent que de ne pas pinailler sur le détail qui tue et qui ne sert à rien en plus. C'est-à-dire que c'est un code entre scientifiques pour dire « je suis un vrai scientifique ». On apprend de la souplesse. Pour les militants, il y a une habitude dans les milieux non universitaires d'être méfiant par rapport aux journalistes et par rapport aux chercheurs. Quand on voit un chercheur, il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé, on a l'impression qu'il va venir vous piquer vos données pour publier par ailleurs et être valorisé par ailleurs. Donc c'est une espèce de travail en commun. Et en même temps, quand on est militant, on a envie de gueuler très fort, très vite. Et ce que nous, on a essayé de faire au niveau des observatoires, c'est de prendre un temps de recul et d'avoir une parole crédible. Autrement dit, on ne publie, on ne dit que ce qu'on voit ou que ce qu'on entend. Alors que des fois, on aurait bien aimé aller plus loin et puis, ah oui, il y a mon copain qui a vu ça. Bon, si on veut être crédible, c'est la condition. De même, on applaudit. Bien sûr, on fait la bise à tous nos amis qui sont dans les manifestations. Mais on reste neutre au niveau comportemental. On n'applaudit pas, on ne lance pas de slogan. Autrement dit, on prend au sérieux notre rôle d'observateur tel que le définissent, on les a découverts par la suite, les textes internationaux. Et on demande à l'État français d'appliquer les lois qu'il a signées, les accords qu'il a signés sur les observateurs internationaux. Ça nous semble évident qu'on va se battre pour qu'il y en ait en Russie. Ça nous semble évident qu'on va se battre pour qu'il y en ait dans les États totalitaires. Et quand c'est à Toulouse, c'est autre chose quand même. On fait un compte-rendu après chaque manifestation. On fait des synthèses. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4, 5, 6 rapports qu'on a sortis en 8 ans. Ce n'est pas énorme. Vous avez la liste qui a été diffusée à l'entrée. Reconnaissance, en 2025, et le président du tribunal judiciaire, à propos de l'observatoire des comparutions immédiates, a publié dans la dépêche une page entière pour dire « ils ont pas raison, mais ils n'ont pas tort quand même ». Et le préfet du Tarn, à propos de la manifestation de début juillet 2025, a pondu 3 pages pour dire qu'il ne répondrait pas à notre rapport et pour répondre à quelques points. Et l'intérêt, d'ailleurs, ce n'est même pas les points auxquels il a répondu, c'est les points auxquels il n'a rien dit, notamment le fait qu'on a vu des policiers déguisés en zadistes. alors que le préfet avait affirmé que jamais ça se passerait. Voilà, c'est deux mots sur la méthode. Dire quand même, et on en est assez fiers, que la méthode qu'on a inventée à Toulouse, on l'a inventée collectivement, hein, entre observateurs et chercheurs, a été diffusée au niveau national, elle est adoptée maintenant, elle a été métissée un peu par des juristes. On n'a pas tout à fait les mêmes méthodes, des fois. Elle est diffusée maintenant au niveau de l'ensemble des observatoires des pratiques policières et des libertés publiques, qui en a une quinzaine. Voilà, merci.
Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais intervenir encore un petit pas de côté avant de voir des photos de ce qui se passe et tout ça, pour essayer de remettre du contexte, hein, par rapport au travail de l'OPP de Toulouse. Voilà, moi, j'interviens au titre de la Ligue des droits de l'homme et aussi de participants à l'OPP. Il y en a une quinzaine en France, hein, hein, et c'est un dispositif, c'est un outil citoyen qui aujourd'hui à la fois est extrêmement intéressant comme lieu de pratique de militantisme dont nous n'avons pas trop l'habitude, mais qui est un dispositif qui pose un certain nombre de questions politiques importantes, qui renvoient des enjeux qui sont des enjeux de fond par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Pour le dire vite, Daniel vient de développer la démarche et les quelques éléments d'outils et de méthodes qui sont utilisés à l'Observatoire. C'est pas uniquement par attirance obsessionnelle à la méthodologie, mais c'est parce que quand l'Observatoire est sur le terrain, quand il produit un rapport, il y a un impact et un enjeu politique relativement fort et qui est aujourd'hui de plus en plus important. D'ailleurs, on commence à avoir de plus en plus de réactions. Hein. Au début de notre présence, nous n'existions pas. Et nous commençons à exister dans le paysage. Voilà. Alors, particulièrement dans notre pays, les observatoires des pratiques policières. Nous avons à Toulouse mis en œuvre depuis un certain nombre d'années d'autres types d'observatoires que sur les pratiques policières. Hein. On a travaillé sur les comparutions immédiates, par exemple, hein, au tribunal à Toulouse. Nous avons travaillé sur l'accueil des étrangers à la préfecture de la Haute-Garonne, sur l'accueil des gens à l'Office français de l'immigration. Nous avons travaillé en termes d'observatoire sur l'habitat indigne, c'est-à-dire sur ce qui se passe dans les hôtels dans lesquels le 115 envoie un certain nombre de familles qui sont à la rue. Voilà, il y a tout un éventail aujourd'hui de pratiques d'observation, ce qu'on appelle nous l'observation citoyenne, qui est en train de se développer à Toulouse, beaucoup, et petit à petit ailleurs. Il y a un vrai enjeu dans notre pays qui n'est pas habitué à ce que la société civile, comme on dit, alors ça resterait à développer, à ce que la société civile s'autorise à surveiller les pratiques qui sont les pratiques de l'État. Parce qu'un observatoire, au fond, politiquement, c'est ça aussi. Hein. Ce sont des citoyennes et des citoyens, des associations, des corps intermédiaires, des syndicats, des associations qui se regroupent et qui vont surveiller ceux qui nous surveillent, hein, ou qui vont vérifier que les gens qui sont mandatés, hein, qui ont ce qu'on appelle la violence légitime, on ne va pas faire du Weber comme ça, et qui donc sont encadrés par un certain nombre de textes, et bien on s'autorise à regarder ce qu'ils font. Alors, dites-vous bien peut-être pour les... Hein, si vous n'êtes pas spécialiste de ce genre de choses-là, c'est que dans d'autres pays, ça ne pose pas de problème. En dehors de France, vous avez dans un certain nombre, entre autres, par exemple, de pays anglo-saxons, de traditions moins républicaines verticales et peut-être un peu plus démocratiques horizontales, le fait qu'il est tout à fait légitime que la société civile s'auto-organise et puisse, ce faisant, vérifier effectivement comment les agents de l'État utilise les textes et alerte, interpelle. Hein. C'est ce qu'on appelle un système qui est un système de contre-pouvoir. Et de ce point de vue-là, l'Observatoire des pratiques policières, c'est quelque chose qui s'instaure d'une certaine manière comme une forme nouvelle de pratique que l'État, aujourd'hui, en France, a beaucoup de mal à admettre. Hein. D'où le silence, d'où, à des moments donnés, des réactions et des préfectures qui frisent le ridicule. On aura l'occasion d'y revenir. Hein. D'où les violences, y compris en direction des observateurs. Voilà. Or, il faut savoir que la reconnaissance des observatoires et la reconnaissance du statut d'observateur est quelque chose qui est réglementé par des textes qui sont des textes internationaux que l'État français a signés et qui, aujourd'hui, est beaucoup en difficulté pour les faire appliquer. Alors, cette question-là est une question, effectivement, pour nous, direct, en tant qu'observateurs, par rapport à notre pratique, mais c'est quand même une question politique de fond aujourd'hui sur peut-on admettre que, encore une fois, les citoyennes et les citoyens puissent... Alors, c'est de manière latérale aujourd'hui la même question qui est posée sur la présence des journalistes sur le terrain, c'est-à-dire de gens qui donnent de l'information par rapport à ce qui se passe. Et cette question-là, sur laquelle on intervient maintenant régulièrement, nous paraît être une question qui est une question politique de fond. Au regard de ce qui est en train de se passer dans le pays, au regard de la politique qui est menée explicitement ou implicitement par les ministres de l'Intérieur qui se succèdent, la façon dont on est en capacité de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain a un enjeu particulièrement fort sur les mouvements sociaux et la possibilité qu'ont les citoyennes et les citoyens de pouvoir s'exprimer, faire valoir leurs droits individuels et collectifs. Voilà, c'était juste... un élément de contexte et des éléments d'enjeu politique par rapport à ce que nous pratiquons aujourd'hui sur l'observation citoyenne.
Pierre va nous faire un petit exposé.
Alors moi, j'ai prévu de vous assommer avec quelques 30 pages de PowerPoint de ce que c'est que les pratiques policières en France. Je voudrais juste la diapo d'avant, s'il te plaît. D'avant. Qui présente, en fait, au début de l'Observatoire, sur le tout premier rapport, on avait publié ce que c'était les armes de toutes les polices en Europe. Et vous voyez comme ça des colonnes qui se déploient de tout ce qui est autorisé en France, et puis vous avez deux, trois lignes sur les autres pays, parce que la France est le pays qui a le plus militarisé son maintien de l'ordre, avec du matériel qui dépasse peut-être l'entendement, nous, on se dit, quand on commence l'observatoire, mais surtout qui répond à des besoins de la police. Alors, si la police en France a besoin de tonfa, mais ça, c'est comme dans tous les autres pays, ou de boucliers anti-émeute, ou d'armure pour protéger les policiers, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les pays d'Europe, et c'est ce qu'on avait publié. Ça vient de la CAT. Alors les images sont du site maintiendelordre.fr, qui est un journaliste, Maxime Régnier, qui l'a fait. Je vous encourage, quand vous avez des questions, vous vous posez qu'est-ce qui se passe dans le maintien de l'ordre. Vous pouvez toujours aller là-bas. Et donc c'était la CAT, l'association des... Alors, association chrétienne... je ne sais plus ce que c'est. Pour l'abolition de la torture. Donc il y avait sorti toute la panoplie donc des polices, tout ce qui était autorisé, et notamment les grenades lacrymogènes qui sont utilisées que dans un pays sur deux en Europe. Moi je rappelle à chaque fois que les grenades lacrymogènes sont interdites dans le cadre de la guerre. Hein. C'est interdit. C'est pas loyal quand même. Enfin, on peut pas utiliser du lacrymogène sur des militaires, vous comprenez bien. Donc les grenades lacrymogènes sont utilisées dans à peine un pays sur deux en Europe. Les lanceurs de balles de défense, donc qui seraient un moyen défensif pour les policiers, sont utilisés dans deux pays à peine en Europe, plus la Catalogne. Je le dis parce qu'un observateur est catalan. Voilà, et c'est quasiment... donc la France va... concentrer vraiment tout ce qu'on a. Donc voici, je vous laisse les grenades lacrymogènes. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les grenades lacrymogènes qu'on peut trouver en France. Là. Enfin, voilà, on en a quelques-unes qui sont là, si vous voulez, peut-être plus tard les manipuler. Elles sont décontaminées, elles sont pas offensives. Vous ne pouvez pas vous amuser vraiment avec, vous pouvez juste les regarder. Voilà. Et cette grenade lacrymogène qui, alors, c'est quelque chose de très agressif qui prend beaucoup. Enfin, je ne sais pas si, j'imagine que la plupart d'entre vous ont connu ce que c'est l'effet du lacrymogène. Une seule grenade lacrymogène couvre déjà un terrain, on va dire, important. Et donc là, on voit à l'écran l'ensemble des dispositifs de propulsion, parce que vous pouvez les lancer à la main, mais vous pouvez aussi les lancer avec des armes. J'y reviendrai juste après. Pour les lancer à différentes distances. Et donc avec tout le matériel qu'on avait lors du premier rapport, je tiens à vous rassurer, beaucoup de choses ont été enlevées du maintien de l'ordre. À commencer donc par la grenade de Gli F4 qui n'existe plus là. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans l'observatoire, la Gli F4, parce que je suivais un journaliste musical qui s'appelle David Dufresne, qui suivit des festivals comme ça. Et un jour, il a publié une vidéo d'une main arrachée. Donc, bon, ça m'a un petit peu interpellé. C'était une Gli F4 qui avait explosé dans les mains d'un manifestant et qui avait perdu sa main. Donc là, vous pouvez le voir, le ministre Christophe Castaner a interdit cette Gli F4 qui a donc été remplacée. Parce qu'il n'est pas question, vous comprenez bien, d'enlever une grenade. Si on l'enlève, c'est qu'elle est remplacée. Et elle a été remplacée par une grenade qui n'est pas tout à fait la même, c'est la grenade de GM2L, qui, en plus d'exploser violemment, enfin, les bruits, peut-être que Pascal aura ensuite une vidéo à Sainte-Soline qui montre bien ce que c'est une explosion de GM2L. Et puis pour vous montrer, parce que nous on peut pas l'expliquer en fait, si on ne voit pas ce que c'est une explosion de GM2L, on peut pas trop se le dire. Alors j'ai laissé les données, on va dire scientifiques, les données techniques dessus. Donc la grenade GM2L, elle explose en faisant 165 décibels, voilà. Pour les non spécialistes, un avion au décollage c'est entre 100 et 120 décibels. Vous voyez le seuil de la douleur, c'est à 120 décibels. Les lésions immédiates et irréversibles possibles sont à partir de 140. Et donc la grenade GM2L, c'est 165 décibels. Et je vous laisserai décider si c'est quelque chose d'important ou pas. Comme il fallait en plus pouvoir laisser les policiers sortir de situations difficiles, ils ont mis en circulation une nouvelle grenade qui s'appelle la grenade GUNL, qui est une grenade, il y en a une là, qui lance des petits plots un petit peu dans tous les sens. La grenade ne contient plus d'explosifs parce qu'elle a remplacé une grenade qui en avait. Et cette grenade donc, qui se présente comme ça et qui lance plein de petits plots, celle-ci elle ne fait que 144 décibels à 10 mètres. Et elle a été à l'origine de plusieurs mutilations parce que, figurez-vous que les petits plots, je vais peut-être me déplacer en même temps, mais les petits plots comme ça, qui sont censés donc pouvoir disperser les manifestants qui encercleraient un policier. Ben, si vous le trouvez dans, enfin, si ça explose à hauteur de tête et que vous le prenez dans l'œil, eh ben vous perdez votre œil. On a comme ça documenté un journaliste qui fait un travail de recueil comme ça a documenté depuis la mise en service de la grenade au moins 20 personnes qui ont été éborgnées définitivement suite à l'action d'une grenade. Pourquoi est-ce que ça peut éborgner ? Eh ben, nous, c'est une question qu'on va pouvoir se poser. La grenade GNL, c'est écrit sur le mode d'utilisation de la grenade, est une grenade qui doit être lancée au sol. Donc si elle explose et qu'elle touche votre œil, c'est que quelque chose s'est mal passé dans le déroulé pour lancer une grenade au sol. Tout simplement, et on le verra plus tard aussi, parce que la police utilise toutes ces grenades explosives, la GM2L que je vous ai montré juste avant et la GUNL, de façon offensive, alors que ça ne devrait pas être des outils offensifs, et donc ils les utilisent comme ils peuvent. Donc des fois c'est à hauteur de tête, des fois c'est au sol comme il faut, des fois c'est lancé un petit peu n'importe comment, et on a vu plusieurs policiers se blesser eux-mêmes avec l'utilisation de grenades, parce que la multiplicité des grenades qui arrivent dans leur poche finalement, est-ce qu'ils ont le temps de formation nécessaire ? Là, chaque année, presque, c'est une nouvelle grenade qui entre dans leur arsenal. Une tous les ans et demi à peu près, et parce que je vais vous en montrer d'autres bien sûr. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment formés aussi à tout ce matériel. Une autre grenade, c'est la grenade de ASSD. Alors la grenade ASSD, c'est une grenade qui est simplement pour faire du bruit. Donc du coup, elle va faire beaucoup de bruit. Elle fait donc 160 décibels elle aussi pour éjecte le petit bouton bouchon que vous voyez là-haut est éjecté lorsqu'elle est utilisée et a été à l'origine de deux mutilations définitives de personnes qui l'ont pris dans la tête en fait ce petit bouchon qui est expulsé. Voilà. La Gli F4, c'était une grenade de... Non, la GL304, pardon, c'est la nouvelle grenade. Alors, on ne l'a pas encore vue à Toulouse utilisée, quoique j'ai un petit doute sur une explosion. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Celle-ci, donc c'est, elle est bien belle comme grenade. Celle-ci, donc, elle fait maintenant 175 décibels. C'est la nouveauté de cette année. Enfin, elle est mise en service depuis 2025. Elle a été utilisée le 1er mai, il me semble, la première fois, qui expulse elle aussi son petit bouchon. Et vous voyez bien que mon graphique ne montre plus. Le graphique qui est utilisé, là, c'est pour montrer ce qui fait mal aux oreilles. Et en fait, les scientifiques qui ont mis en place ce graphique ne pensaient pas devoir présenter des choses qui font autant de bruit. Donc les 175 décibels ne sont pas présents, hein, parce que ça n'est pas censé être une utilisation normale. J'en ai fini avec les grenades. Je passe très très rapidement sur qu'est-ce qui lance ces grenades. Je vous ai dit, on peut les lancer à la main, on peut les lancer avec cet outil qui s'appelle un lanceur Cougar, qui permet de les lancer jusqu'à 200 mètres. Voilà, je n'ai pas du tout. Du coup, je pensais avoir la vidéo en ligne qui permet de vous montrer comment est-ce que sont utilisées ces grenades, parce que là, elles sont utilisées. Bon, chaque lanceur lance une seule grenade, donc pour saturer l'espace, la gendarmerie, notamment, mais les CRS, tous les corps de police, les utilisent par plusieurs. Là, vous voyez, il y a quatre lanceurs pour permettre de saturer complètement l'espace de lacrymogène ou de GM2DL, parce que presque toutes les grenades qu'on a vues peuvent aller dans ce lanceur-là. Voilà. Et la petite nouveauté, parce qu'il faut bien des nouveautés aussi sur les lanceurs, c'est ce qu'on... Alors, ça, est-ce que vous le voyez ? Donc ça, c'est une vidéo, bon, du coup, que je ne pourrais pas vous montrer, qui montre que ces grenades peuvent être lancées. Le lanceur, vous l'avez bien vu, il permet de faire un angle de 45 degrés. Il est étudié pour. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs qui ont fait en sorte qu'on ne lance pas les grenades directement sur les manifestants, sinon ça le fait mal. Et donc, vous voyez dans la vidéo, qui n'est pas une vidéo OPP pour le coup, que quand on utilise mal le lanceur, on peut l'utiliser de façon latérale et que ça arrive directement dans votre ventre. On a eu plusieurs cas de blessés, notamment à Paris, parce que c'est là où on le documente le plus facilement, de CRS qui lancent les grenades directement à l'horizontale. Et je laisserai notre avocate peut-être vous dire, en fait, c'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est pas conseillé, mais si jamais la vie de quelqu'un est menacée, c'est pas illégal. Voici donc la nouveauté du lanceur de grenades lacrymogènes, c'est le lanceur Pen Arm. Alors voilà, là, on parle de militarisation, moi j'en parle vraiment quand il y a ça, parce que c'est-à-dire qu'avant, on voit bien que c'est pas une arme classique en tout cas, on se doute bien que c'est pas quelque chose de normal dans un contexte de tous les jours. Ben là, moi, en tout cas, moi, je vois une arme. Je vois clairement une arme. Ça tombe bien, c'est une arme. C'est une arme qui a été utilisée et qui est créée par les Américains, qui tire 6 grenades lacrymogènes en 4 secondes, et n'importe quel matériel peut être employé là-dessus, parce que c'est un calibre militaire. C'est-à-dire que si, par hasard, le ministre de l'Intérieur voulait changer les munitions qui sont utilisées, ben, il suffit de se servir dans les stocks de l'armée. Le diamètre 40, c'est un des diamètres utilisés par l'armée. Donc, vous pouvez voir, notamment, le maintien d'ordre à l'américaine se fait avec des flashballs qui sont à l'intérieur de ces lanceurs Pen Arm. Là, c'était une vidéo que je ne pourrais pas vous montrer, donc qui montre la cadence de tir, mais je vous l'ai mis justement sur des militaires américains. Et pour finir sur les lanceurs, là c'est la dernière nouveauté, là aussi c'est cette année, c'est le lanceur Cobra. Le voici. Moi aussi je vois une arme là, peut-être que pas vous, mais enfin voilà, qui permet de lancer deux grenades lacrymogènes d'affilée. Et même si le lanceur est très récent, Il est possible de voir, donc ça c'était il y a quelques jours à peine, hein, c'était en septembre. Au centre de l'écran, vous pouvez voir un CRS qui a ce nouveau lanceur et déjà qui ne l'utilise pas correctement parce que ben, vous pouvez voir que là, il ne prend pas appui. Là. Donc en fait, on a déjà une arme qui peut servir à tirer à l'horizontale s'ils veulent. Non, ça, c'est les lanceurs qu'on a vus à Sainte-Soline la première fois, qui permettent maintenant de lancer 12 grenades en quelques secondes. Alors, on n'a pas chronométré, hein, mais c'est en moins de 5 secondes. Ces 12 grenades, c'est quelque chose qui a été lancé par les militaires à la base. Je vous ai mis les coordonnées du Titanite et Rheinmetall qui fait ça. Et enfin, parce que je voulais parler très très vite des véhicules, ça c'était les anciens véhicules qu'on avait il y a encore quelques années, ça c'est Place du Capitole, un véhicule à blindé de la gendarmerie, qui ont été remplacés. Le voici le même à Toulouse et à Paris, et donc vous voyez là, non j'y arriverai pas, enfin vous voyez au centre qu'il a un lanceur Cougar, donc il peut lancer une grenade une par une, et voici donc son remplaçant, qui lui peut quand même en lancer 12 d'un coup, ce qui est quand même vachement plus efficace, et qui est équipé, vous voyez la petite bâche là, d'une mitrailleuse. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, c'est la diapo que je vous mettais avant. Donc il y a un lance-grenade 30 coups, une mitrailleuse, qui peut embarquer du matériel de guerre, parce que c'est un matériel de gendarmerie qui peut être utilisé dans les opérations de toute la gendarmerie et pas seulement le maintien d'ordre. Il y a donc un fusil mitrailleur, je vous l'ai mis en rouge, FN Mag 58, capable de tirer 1000 coups à la minute. Voici donc ce que je voulais dire sur le matériel. Et je vais passer la parole à Pascal.
Mémo audio, une mémoire sonore.
Toutes les informations que Pierre a données sur les armes, vous trouverez dans tous les rapports de l'Observatoire des pratiques policières, en particulier dans le premier rapport, où on avait longuement analyser les armes de la police et de la gendarmerie. Je vais rentrer un petit peu dans élargir un peu la réflexion. L'Observatoire des pratiques policières, nous constatons sur le terrain, nous documentons, nous analysons, nous restituons. Il est très rare, les fins de tous nos rapports, si vous les lisez, sont très politiques, dans le sens où après avoir décrit pendant des pages et des pages ce que nous avons constaté dans les rues de Toulouse, partout ce que nous avons analysé, nous en tirons des conclusions, une synthèse et des conclusions. Chaque rapport a des synthèses, une synthèse et une conclusion. Je vous engage donc à aller lire ces synthèses et conclusions. Ce que je vais vous présenter, c'est extrait directement de ce que nous avons déjà écrit. Hein, c'est une synthèse rapide. D'abord, on est face à une doctrine policière en évolution. Je vais parler maintien de l'ordre en manifestation de rue, là. Hein, la police, c'est bien autre chose que ça, bien évidemment. Et en gros, on est passé d'une mise à distance des foules, c'était le maintien de l'ordre traditionnel d'après 68, à la notion de l'interpellation. En gros, il faut choper les manifestants, pour parler de manière un peu... un truc avec intrusion dans les cortèges. C'est ce qui nous avait fait réagir à partir du moment de la loi travail à Toulouse, hein, quand on a vu effectivement les baqueux commencer à pénétrer dans les manifs. On n'avait pas l'habitude, en général, on avait plutôt tendance à jeter les flics. Hein, je parle pour ceux qui étaient dans les services d'ordre d'organisation à l'époque. Est arrivé le schéma national du maintien de l'ordre de Darmanin. Hein, là, c'est clair, un mot d'ordre, fermeté. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'écrit, hein, bien évidemment. Et trois mots-clés, réactivité, mobilité, interpellation. Des unités non formées au maintien de l'ordre interviennent dans le champ des manifestations, les BAC, les CDI, vous le savez comme moi, hein, et il y a création de nouvelles compagnies de CRS très mobiles, comme la CRS 84, qui est basée à Montauban, et qui sont dédiées à l'interpellation. C'est-à-dire que Darmanin a créé quatre compagnies de CRS depuis nouvelles, la 84, quatre compagnies qui sont entièrement tournées vers l'intervention rapide dans un délai de 6 heures partout en France. Et pour s'occuper de quoi, devinez ? Manifestations et violences urbaines. Et on les a regroupés à Toulouse, une petite photo où on voit les BAC, bien connus des Toulousains, et la CRS 84 le 18 septembre à Toulouse. Alors, je vais pas aller plus loin pour la définition de ce que c'est que la politique. Je vous fais de la pub pour un bouquin. Alors, honnêtement, j'ai aucun intérêt. Mais si vous avez un livre à lire pour comprendre ce que c'est que l'évolution de la politique de maintien de l'ordre en France, c'est celui-là. Hein, c'est le livre d'Olivier Figuel et Fabien Jobard. Je vous conseille de le lire. Et vous trouverez enfin du rapport numéro 3 de l'OPP une bibliographie complète de tout ce qu'on a lu, avalé et fait, parce qu'on ne fait pas qu'observer quand même. Alors, je vais vous prendre trois éléments. C'était annoncé dans le titre de la conférence. Hein, vous avez trouvé Sainte-Soline à 69, retraite. Je ne sais plus ce qu'on disait. Le mot d'ordre, c'était... Ouais, la même violence d'État. Je vais vous parler rapidement de la réforme des retraites. Le 16 mars, la bascule, une manifestation qui était massive et calme, manif sans pathos, au loin, les CRS étaient relativement loin, comme c'était le cas pour les manifestations depuis le début de la mobilisation contre les retraites. Et puis en milieu d'après-midi, Elisabeth Borne annonce recourir le 49-3. Les gens ont les boules. Etc. Rendez-vous est donné à 20h au Capitole pour protester contre le recours au 49-3. Sans aucune préparation, sans aucune sommation, sans rien, les CDI, compagnie départementale d'intervention, les policiers toulousains équipés pour le maintien de l'ordre, chargent la foule place du Capitole. Sans sommation, rien, ils y vont, ils tapent dans le tas. Ils vont même jusqu'à matraquer les gens à l'entrée du parking, hein, les gens qui allaient se réfugier dans le parking. Pour les vieux comme moi, ça rappelle, et même plus les plus jeunes, hein, ça rappelle la manif de Charonne, hein, où effectivement, il y avait eu des morts, les gens s'étaient écrasés contre les grilles du métro alors qu'ils étaient poursuivis par la police. J'ai eu le froid un peu dans le dos en prenant cette vidéo ce soir-là. Communiqué de l'OPP le soir même, dénonçant le comportement des CDI, qui s'interroge sur la corrélation entre les pratiques policières et la situation politique. La manifestation du 28 mars, donc quelques semaines après, une intervention planifiée des forces de l'ordre qui fait dégénérer la manifestation. On arrive boulevard Leclerc, on était en tête de manif, un groupe d'observateurs, et on voit là tout un alignement, camions de gendarmes mobiles équipés, canons à eau. Ils ne sont jamais à cet endroit-là dans les manifs de Toulouse, absolument jamais, ils ne sont jamais sur le boulevard Leclerc. Donc on se dit, aïe, 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 il y a Anguille Chourouche. Pas loupé, quelques minutes après, le canon à eau intervient avec les gendarmes mobiles et intervient dans la manif de manière frontale, en balançant moult lacrymogènes, etc. Tout. Et les affrontements continuent tard dans la soirée. Là, je vous montre l'explosion d'une grenade de désencerclement. Une grenade de désencerclement, Pierre en parlait tout à l'heure, c'est pour désencercler des policiers qui seraient menacés. Là, pas du tout, hein, c'est des gendarmes mobiles, ils sont à distance des manifestants. Les manifestants passent, il y en a un ou deux qui braillent, hop, grenade de désencerclement. D'accord ? Et on voit les petits plots, vous ne les voyez pas, mais on voit bien les petits plots. Un plot à 300 km/h dans l'œil, ça fait Jérôme Rodriguez, hein, en gros, pour les vite. Hein. Et les incidents vont durer pratiquement toute la soirée, jusqu'en début de soirée. 30 mars, donc deux jours après, on sortait de Sainte-Soline en plus, hein. Communiqué de l'OPP sur la gestion policière de la manifestation, et on s'interroge à l'OPP qui avait intérêt hier à créer les conditions d'une interruption prématurée de la manifestation syndicale contre la réforme des retraites et à la mise en tension de Toulouse pendant des heures. Dans la suite du communiqué, nous écrivions « S'agit-il de décrédibiliser la mobilisation en cours et de provoquer des réactions de rejet de la part de la population en créant une sorte de décor émeutier censé discréditer le mouvement social en cours ?» et d'avoir une couverture presse en correspondance. Et là, on a le droit aux quatre, la dépêche du midi. 24 mars, retraite, la rue contre-attaque. 25 mars, guérilla urbaine, Toulouse sous le choc. Mardi, au risque, le journal, ce numéro-là, la dépêche n'est pas en ligne. Je ne l'ai pas retrouvé. Il n'est pas en ligne. Mais enfin, j'ai retrouvé le titre parce que je l'avais. Retraite, un mardi au risque. Et le 29 mars, manif à Toulouse, nouvelle violence. Un constat, il y a un notable entre les décisions politiques, l'utilisation de la force et les relais médiatiques. On va y revenir autour de tout. Et la presse particulièrement. Hein, là, on voit bien le lien direct qu'il y a pour faire monter la pression, déconsidérer le mouvement social. C'est éminemment politique. La mobilisation contre les méga-bassines, deuxième élément d'analyse. Ils ne passeront pas à la manif de Sainte-Soline du 25 mars 2023. Ils ne passeront pas, c'est le titre du journal L'Histoire de la gendarmerie. En parlant de la manifestation de Saint-Soline. Je vous rappelle qu'ils ne passeront pas, c'est le général Nivelle à Verdun. Hein, les références sont quand même intéressantes. Donc, voilà. 3000 gendarmes et policiers, 5000 grenades tirées, dont nombre de grenades GM2L. Le général Rodriguez, qui dirigeait les opérations, a parlé de 5000 grenades lacrymogènes. C'est faux. Dans les 5000 grenades lacrymogènes, il y avait 5000 grenades lacrymogènes et explosives, les fameux GM2L dont on a parlé tout à l'heure. Et d'après les calculs qu'on a fait, il y en a eu au moins entre 800 et 1000 de tirés ce jour-là. D'accord ? Pour 6000 manifestants officiellement, hein, d'après le général Rodriguez, ils ont tiré 5000 grenades pour 6000 manifestants. Non, mais c'est... Et si vous savez qu'il y a en général 7 palets lacrymogènes par grenade, vous imaginez ce que ça donne. Enfin, c'est... Comment ? Non. Mais pourtant, ils avaient des quads qui tournaient par derrière et qui allaient tirer comme une cavalerie. Enfin, je reviendrai. Ouais. Et on voit là le policier avec son quad qui recharge des grenades avec des DPR, donc des dispositifs de lancement de 200 mètres. Donc il va être sur son quad, il va contourner les manifestants, même ceux qui sont rassemblés et qui ne sont pas offensifs, ils vont tirer dessus par derrière, à 200 mètres de distance. C'est une boucherie, hein, Sainte-Soline, on y reviendra. Une organisation des pratiques militaires très loin du maintien de l'ordre. Nous, dans le rapport qu'on a fait, l'OPP, on a considéré que Sainte-Soline était une opération militaire et pas une opération de maintien de l'ordre. Le langage utilisé, alors est-ce que ça a marché ma vidéo, moi ? Mais est-ce qu'il y a le son ? Ben non, parce que s'il y avait le son, ça serait bien. Je suis désolé, mais alors c'est ce que montrait cette vidéo, c'est qu'on entend 21 tirs de grenades GM2L ou de grenades explosives en 48 secondes. D'accord ? Donc toute la vidéo est rythmée. C'est des vidéos qu'on a découvertes nous-mêmes avec horreur après, quand on s'est débriefé en rentrant de la manif et qu'on a commencé notre travail de rapport. On a été étonnés nous-mêmes parce que sur le moment, tout le monde est sonné, on ne se rend pas compte, mais on a vécu dans un environnement. Et tout. De toute façon, 800 grenades explosives lancées en 2 heures, vous imaginez ce que ça donne. Hein. Alors, bilan de Sainte-Soline, bien évidemment, 200 blessés, dont 40 blessés graves, dont 2 personnes en pronostic vital engagé, des centaines de personnes soumises à un usage débridé de gaz lacrymogène ou à un stress physique et psychique élevé. Alors si je parle de ça, c'est parce qu'en dessous, le bilan pour les gendarmes est de 47 blessés, dont les 2/3 pour traumatisme sonore et difficultés respiratoires, et aucun blessé grave. Et un gendarme ou un policier d'ailleurs à Toulouse qui prend les lacrymogènes, ses propres lacrymogènes, il est considéré comme blessé. D'accord ? Ça veut dire qu'à Sainte-Soline, des blessés, il y en a eu des centaines et des centaines. Et dans toutes les manifestations toulousaines, encore dernièrement, hein, le nombre d'interventions des street medics et des secouristes trucs montre qu'effectivement, il y a beaucoup de blessés. Les déclarations du ministre et du préfet avant la manifestation avaient pour objet de créer volontairement un climat de tension. Vous vous souvenez, c'est les éco-terroristes. D'où le petit panneau là, qui est affiché, là, que portait un manifestant à Sainte-Soline qui l'a emmené comme souvenir. Et autre apparition, à Sainte-Soline, des policiers avec des fusils mitrailleurs. On nous dit souvent les fusils mitrailleurs dans les manifestations, quand les policiers sont équipés, c'est pour vous protéger contre des attentats terroristes, d'accord ? Dans la Pampa, enfin dans les grands champs céréaliers du côté de Niort, je ne vois pas comment on aurait un attentat terroriste, quoi, hein. Donc c'est toujours inquiétant, hein. Toujours inquiétant, et peut-être que quelqu'un en dira un mot tout à l'heure. On pense qu'à l'instar de Malville, de sinistre mémoire en 1977, la matinée anti-nucléaire, ça laissait à Sainte-Soline de casser le mouvement écologiste. C'est-à-dire, en 1977, Malville a eu comme effet de casser le mouvement anti-nucléaire français de manière durable, par la force et par la violence. Un mort, plusieurs dizaines de blessés, dont plusieurs blessés très graves. Et ceux qui étaient à Sainte-Soline, pour certains, ont pensé, ça leur a rappelé Malville, de sinistre mémoire. Dernier point, mobilisation contre la 69, la turboteuf de juillet 2025. Tout chaud, tout récent. Je vous laisse découvrir le tweet de Retailleau. Alors, j'ai failli enlever Retailleau pour vous dire, devinez qui a écrit ça. Bon, et tout. Je vous laisse découvrir le langage utilisé par le ministre de l'Intérieur quelques heures avant la manifestation. Franchement, c'est sans commentaire. C'est ce qui est annoncé est effrayant. Il y a rien à dire. Avec l'invention, tout le monde a suivi, peut-être les Toulousains, ce qui s'est passé, soi-disant que les manifestants avaient fait des stocks de gravats avaient fait préparer des lance-roquettes pratiquement avec des bouts de ferraille et tout ça. Tout ça, c'est totalement inventé, hein, c'est du délire. Ça a été parfaitement bien démonté par les amis de la Terre.
Ouais. Juste pour dire que par rapport à ce tweet de Retailleau, il y a une plainte qui a été déposée lundi. Elle a été déposée par les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, ATTAC Tarn et l'Union syndicale solidaire. Voilà, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais il avait bien besoin d'une plainte aux fesses.
Donc criminalisation en amont, bien évidemment, de la manifestation. Les médias relaient les éléments de langage employés par les ministres et le préfet. Hein. Toujours les médias, un peu, quelque part, hein, derrière, bien évidemment. Le traitement de la TurboTeuf n'est pas singulier, mais bien un exemple typique du cadrage médiatico-policier des luttes environnementales. Et Sainte-Soline, on avait eu le droit à la même chose. Hein. À Sainte-Soline, les communications avant et après manifestation étaient de même nature. Alors, on est dans le cas de ce que nous, on a appelé à l'OPP, en travaillant sur le rapport, une prophétie autoréalisatrice. Les manifestants ne sont pas les barbares annoncés, mais il faut qu'il y ait des violences pour réaliser la prophétie. On va y venir. Mais avant, petit truc rigolo. Les observateurs étaient en position, au milieu des gendarmes. C'est rigolo. Quatre personnes au dress code manifestant sortent des bois. On est là, on prend nos appareils, on filme, on dit « ils sont malades, ces mecs ». Ils se jettent dans la gueule du loup, quoi. Vraiment, tout. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont bien accueillis, en fin de compte. Corse, ça papote, discute. Ils ouvrent, il y a quand même un gendarme qui n'était pas au courant, qui ouvre le sac quand même pour regarder ce qu'il y a dedans, et tout. Et ils s'en vont tranquillement. C'est à ce moment-là que nous, les acteurs, on tilt, on dit, mais bon Dieu, c'est les flics. C'est les flics infiltrés qui rejoignent leur base tranquille après avoir participé à la manifestation. Alors, qu'il y ait les policiers infiltrés en manifestation, bon, c'est pas nouveau, on va pas à tout. Hein. Mais ça veut dire que le préfet, lui, était totalement au courant de ce que les personnes rassemblées avaient décidé en Assemblée générale. C'est-à-dire d'aller danser sur le pont. Il n'y avait pas de manif offensive, c'était une manif festive. Et le but, c'était d'aller danser sur le pont en construction et tout, faire les kékés, faire deux, trois bombages éventuellement, pourquoi pas, et rentrer tranquillement, continuer à faire la fête. Donc les manifestants, et il n'y avait rien à détruire, à moins de prendre des explosifs pour faire sauter le pont, bien évidemment, ce n'était pas dans l'air du temps. Et donc, tout. Donc le préfet était parfaitement au courant. Il n'empêche, dès que les manifestants ont foutu le nez dehors, en sortant du château de Scomponte, du parc du château, ils se sont fait grenader, quasi immédiatement, et je pense que vous avez tous, les Toulousains, en tous les cas, largement suivi ce qui s'est passé là-bas. Le préfet aurait pu, au projet, vu ce qui était prévu, qui était symbolique, faire reculer les CRS et les gendarmes mobiles à 200-300 mètres, loin, qu'on ne les voit pas, et à ce moment-là, les manifestants seraient venus, auraient dansé sur le pont, seraient repartis, faire la fête à la TurboTeuf. Le problème, c'est que ce n'était pas bon, ça, parce qu'il n'y aurait pas eu d'incident. BFM n'aurait pas pu tenir tout l'après-midi en disant, ou CNews, je ne sais quoi, en parlant de « Allez, les Black Blocs sont là, j'en passais les meilleurs, etc. » Donc, il a fallu qu'il y ait des incidents créés par la police. C'est clair. On est clairement dans l'idée de la prophétie qui se réalise pour les images de violence. Donc, quelques enseignements que nous tirons, nous, l'OPP, pas uniquement en termes de pratiques policières pures, mais en termes plus politiques, on va dire. Il y a une volonté évidente de briser par la force les mobilisations sociales, les retraites par exemple, et les mobilisations écologistes au niveau des bassines et de la 69, qui sont un peu deux des luttes emblématiques, mais pas les seules, où il y a des mobilisations. Avec une police et une gendarmerie dont l'armement ne cesse d'être développé et connaît une montée en gamme et en puissance très inquiétante. Les interventions de Pierre, s'il fallait en parler, tout. Ils nous ont tiré dessus à... Je dis nous parce qu'on est observateurs, mais là, on en a pris plein la gueule comme les manifestants. Hein. Ils nous ont tiré au fameux lanceur multicoup monté sur un pick-up là, qui tire plusieurs grenades simultanément. Imaginez qu'à Sainte-Soline, ils aient utilisé les lanceurs multicoup qui peuvent tirer à 200 mètres et bientôt à 400 mètres. Ils auraient massacré la foule. Quoi. Nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets, les observateurs, sur l'évolution du maintien de l'ordre. Il y a une concordance évidente entre répression, violence policière et temps politique. Ah, les retraites avec Borne, hein, ça a commencé à partir en vrille, à partir du 16 mars. Hein. Avant, les manifs étaient peinards, hein, il y avait du monde, etc. Hein, donc, c'est clair. Il y a une stratégie de communication de l'État, des ministres et des préfets qui est absolument outrancière, limite délirante, hein, et qui criminalise en amont les manifestants et qui actionne tous les relais dans presque toute la presse. Un pouvoir qui ne tient que grâce à la police. Et voilà. Alors, on n'a pas le son, mais c'est une charge de police le 10 septembre à Toulouse. Et là, on voit quelque chose qu'on a constaté à Toulouse depuis 2-3 ans dans l'évolution du maintien de l'ordre, c'est qu'aujourd'hui, les policiers chargent par dizaines. On a appelé ça l'effet de submersion. On a commencé à le voir avant dans les rues de Toulouse, les policiers ne chargeaient pas trop et tout. Maintenant, depuis un certain temps, ils commencent à charger. Et là, il y a une 2000 compagnies de CRS et la totalité des CDI. Il doit y avoir 80 policiers qui chargent ensemble et qui vont taper la manif. C'est ce qu'on a eu aux allées Roosevelt le 4 octobre pour la manif Palestine. Hein, vous avez vu à l'œuvre ce que ça donne. Hein. On y va frontalement et on tape. Avec la matraque. La matraque reste quand même un outil bien apprécié des policiers pour la répression des manifestants. Ça fait mal, ça envoie à l'hôpital, ça ouvre le crâne. C'est considéré comme pas très violent, les policiers ont tous des matraques, hein, etc. Enfin, y a un habitus de la violence chez les policiers qui nous inquiète au plus haut point. Et dernière question, n'est-on pas confronté à un pouvoir qui ne tient que par sa police ? Par là ou par sa police ? C'est des questions qu'on peut ne pas manquer de se poser. Après 8 ans d'observation des pratiques policières par l'OPP. Je vous remercie et je passe la parole à Charlotte, qui va nous parler du schéma national des violences urbaines.
Mémodio, une mémoire sonore.
Je suis la dernière à intervenir et je vais vous achever en fait avec des actualisations sur tous ces constats et ces prédictions extrêmement inquiétantes. Pour vous dire surtout qu'il faut continuer. Alors nous, on le fait, mais en tant que citoyen, il faut vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on pense et ce qu'on essaie de vous transmettre quand on vous parle de tout ça. Il faut continuer à s'y intéresser parce que c'est un domaine qui évolue. Et il évolue de façon très rapide à l'aune de ce qui vient de vous être décrit sur le contexte politique. Qu'est-ce qui est fait de la police, pourquoi faire et qui en réalité se durcit, parce que vous avez compris que nous on observe du maintien de l'ordre. Ce maintien de l'ordre, il va mal, il dérive vers quelque chose qui est répressif, qui n'est pas du maintien de la paix publique, qui se transforme en répression quasiment pure, en tout cas de plus en plus. Et on sait que c'est volontaire et que c'est une volonté politique, et la dernière illustration en date de cette volonté politique, c'est pas simplement nous en tant que militants qui disons ça parce que c'est notre avis, c'est quelque chose qui se traduit par des éléments qui sont objectifs. Et le dernier en date, c'est le 31 juillet 2025, la publication du schéma national sur les violences urbaines. Alors, je fais une petite incise très rapide. S'agissant du maintien de l'ordre, il y a aussi un schéma national qui est une décision de la politique, enfin, qui est une décision politique, mais qui est aussi une décision opérationnelle de commandement des directions de la police et de la préfecture, surtout de police parisienne, mais qui gère aussi les gendarmeries, c'est quel est le droit qui va être appliqué en maintien de l'ordre. Là, on est sur quelque chose qui est différent, puisqu'on ne vient pas nous parler de maintien de l'ordre, on vient nous parler d'un schéma sur les violences urbaines. Donc, c'est le même principe, c'est un schéma qui a vocation à gérer le déploiement des forces, qu'elles soient humaines, matérielles, prévues par l'État, hein, finalement, pour réprimer quelque chose qui est nouveau et qui n'existait pas jusque-là et qui n'existe toujours pas, en fait, qui a été évoqué pour la première fois à cette occasion-là. On nous dit, c'est fait pour gérer des situations dans lesquelles il y a des actes violents qui sont commis à force ouverte contre des biens, des personnes ou des symboles de l'autorité de l'État par un groupe généralement jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné dont le contrôle est revendiqué par le groupe. Alors, c'est une définition qui est donc créée de toutes pièces, dont on n'avait pas... en fait, ça correspond à rien, juridiquement ou même factuellement. Et en fait, on peut en faire ce qu'on veut, parce que ça veut tout et rien dire. Un groupe donné, un groupe, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où on est deux et qu'on est séparés d'une distance qui n'est pas très importante. Et encore, c'est à l'appréciation de qui, le groupe ? L'appréciation des forces de l'ordre sur place, un lieu déterminé. Alors, on comprend tous, avec le titre, qu'il s'agit de la ville. On parle d'urbanisme. De violence urbaine, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et en fait, ça ouvre une possibilité, en dehors du maintien de l'ordre qui va mal, mais qui a un cadre, il y a un cadre juridique au maintien de l'ordre qui existe et qui gêne le politique et le maintien de l'ordre actuel, la façon dont il est fait, c'est une catastrophe, mais ils sont encore entravés dans ce qu'ils voudraient faire de plus. Et donc, on va créer ce nouveau schéma national qui va avoir donc ce cadre différent et qui est plus dur. Alors, je ne vais pas vous le lire en entier et vous expliquer tous les éléments qui posent problème. Évidemment, il y a énormément de choses qui posent problème, mais ce cadre-là, il n'existe pas. Il est extrêmement large. Donc, en fait, il donne une liberté d'action aux forces de l'ordre sur le terrain qui est extrêmement importante et qui est donc incontrôlable, puisqu'il n'y a pas de règles qu'on puisse venir leur opposer en disant vous avez fait ci, ça, en fait vous auriez dû le faire comme ça, il y a des règles qui ont été violées, il y a une faute de la part de la police. On n'a pas ça parce que ce schéma, ce maintien-là de l'ordre dans le milieu des violences urbaines dont il s'agit, ben, ça n'existe pas. Et on nous dit le cadre juridique, et c'est écrit dans le schéma, hein, c'est très clair, le cadre juridique du maintien de l'ordre est différent du cadre juridique qu'on est en train donc de créer dans ce nouveau schéma. On nous dit, concernant l'emploi de la force, le maintien de l'ordre impose une réponse graduée qui est décidée par une autorité habilitée à décider de l'emploi de la force. Donc ça, c'est le premier cadre, quand il est respecté. Mise en œuvre par un commandement. Et là, on nous dit, dans le cadre des violences urbaines, le cadre privilégié est la réaction. Donc, en maintien de l'ordre, on essaie de contenir, en tout cas, c'est ce qui est sur le papier et ce qui devrait être fait. La réaction, c'est l'attaque. En tout cas, c'est comme ça que les juristes, les observateurs politiques, et, enfin, tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, l'ont lu. Donc ça, c'est un problème énormissime. Le cadre qui est flou, cette idée d'attaquer et pas d'essayer de maintenir une manifestation à un niveau de violence, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient, acceptable. Et le dernier point, c'était que pour la toute première fois, on vient nous dire dans ce schéma, les journalistes n'auront pas accès. Et ça, c'était jamais, jamais arrivé. Ils n'avaient jamais, en fait, osé aller jusque-là, je crois qu'on peut dire ça. Et donc, bien évidemment, il y a eu un recours qui a été fait par les syndicats de journalistes, CGT, l'Union syndicale solidaire et des particuliers. Donc c'est un recours qui a été fait début septembre et on a eu donc une décision du Conseil d'État sur ce schéma qui date du 17 septembre 2025. Je vous rassure, je ne vais pas vous la lire parce que c'est très pénible. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce schéma, il a été attaqué notamment sur la question des journalistes, parce que c'est les journalistes qui ont réagi le plus vite en fait, pour faire ce recours. D'habitude, il y a le syndicat des avocats, le syndicat des magistrats, bon, ça sera fait plus tard. Mais c'était surtout sur cette question-là. Et le recours est déposé, le Conseil d'État dit on aura une audience à telle date, et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le schéma est retiré pour venir contrer en fait, le débat, qui ne peut donc pas avoir lieu devant le Conseil d'État, puisque le schéma il est retiré, et l'État nous dit, en fait, on l'a transformé en un truc qui s'appelle plus schéma, et donc qui n'est plus une décision aussi contraignante que ça, c'est pas vraiment des ordres, on l'a remplacé par un guide. Le guide, il a le même nom, il a un peu la même chose dedans, sauf qu'on ne parle plus des journalistes dedans. Et donc le Conseil d'État dit, moi j'ai été saisi par les journalistes qui me parlent de l'interdiction qui concerne les journalistes, il n'y a plus cette histoire de journalistes puisque l'État s'est retiré, donc circuler, il n'y a rien à voir, ce recours, finalement, il n'a plus d'objet. Et par ailleurs, il y avait d'autres choses qui étaient soulevées par rapport aux problématiques que posait ce schéma, mais le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas suffisamment urgent ni grave que d'inventer un nouveau cadre dans lequel les forces de l'ordre pourraient intervenir, qui serait inquiétant. On nous dit, finalement, ce guide ou ce schéma, maintenant que les journalistes sont plus concernés, il ne change rien vraiment au droit, il n'impose rien à personne. C'est un peu des choses qu'on conseille aux forces de l'ordre pour se préparer aux prochaines échauffourées dans le cadre des manifestations, mais ce n'est pas si grave. Et donc on en est là, et évidemment ça ne va pas s'arrêter là, parce que là on a eu un recul quand même, qui c'est pas une victoire, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais on a quand même eu un recul qui a été créé par la nécessité que l'État a eu de se défendre contre ce recours, mais ça va revenir, et vu l'orientation que ça prend, en tout cas en juillet 2025, vu la situation politique postérieure et ces dernières semaines, jours et tous les événements qu'on a subis, même les dernières 24 heures, vont faire que l'instabilité politique et la nécessité d'avoir des forces de l'ordre qui ont un cadre le plus large et le plus libre possible, va s'imposer de plus en plus. Donc il va y avoir des nouvelles choses forcément sur ce thème-là. Donc il faut qu'on y soit collectivement très attentif.
Voilà. Merci Charlotte.
Mémodio, une mémoire sonore.